France Musique. En piste, Émilie Minera et Rodolphe Bruno Boulmier, France Musique.
Nous allons passer une semaine avec la divine Renée Fleming. Non, il n'y a pas de coffret, il n'y a pas une actualité particulière. Juste l'envie, le plaisir de passer la semaine avec cette diva. Ça sera donc une navigation subjective dans la discographie de Renée Fleming. Et puis alors, c'est passé avec bonheur du lead à l'opéra, de la comédie musicale au jazz. Elle couvre vraiment un très large répertoire.
Même la pop,
effectivement. Ici, c'était la truite, c'est la pop de l'époque, vous me direz, de Schubert. Renée Fleming dans les années 90 avec Christophe Eschenbach. Est-ce que vous avez lu la toute dernière interview de Renée Fleming ?
Non.
C'est une interview olfactive.
C'est
intéressant quand même.
Qui a réalisé cette interview ?
Je ne sais pas. Alors c'est pour un quotidien américain. Oh. On lui demande ce que sent le bonheur. Pour elle, le bonheur, c'est la brise marine. Ce que sent l'amitié, c'est le café. Alors je ne donne pas toutes ces réponses ou alors on les garde pour la semaine. Par exemple, si vous pouviez avoir une odeur sur les mains pour toujours, elle répond, ce serait l'odeur de la terre.
Ah, c'est amusant.
Und ein Hand hat Rot und ein, es ist ein
Schubert encore, Marguerite Aurouet. Ici, René Fleming et Christophe Eschenbarst, un disque des années 90. Lorsqu'on demande à René Fleming ce qu'elle sent, elle répond un câlin.
Oh,
elle a l'odeur du câlin.
C'est trop mignon ça comme réponse. Ma mère, professeure de chant, me racontait qu'à l'âge de 2 ans, je n'avais pas encore dit un seul mot, mais que tel un perroquet, je fredonnais les mélodies qu'elle jouait au piano. Voilà ce que racontait à l'époque René Fleming dans une interview à l'Express. J'ai commencé très jeune mon épopée musicale à la Juilliard School en 83, à 24 ans. Les masterclass avec la merveilleuse mais très cruelle Elisabeth Schwarzkopf. Les concours, j'avançais comme un kamikaze prêt à mourir pour arriver au sommet. On m'appelait Miss Perfection, mais rien dans ma carrière n'a été facile. Et elle dit aussi qu'elle a été très longtemps en proie à un trac épouvantable, que ça aurait pu la déstabiliser, mais que finalement, le jour où elle a appris à respirer, tout s'est bien passé pour elle. Et voilà comment elle finit. C'est comme ça qu'une fille d'immigrée qui a grandi à Churchville, une ville paumée de l'État de New York, est devenue la diva du Metropolitan et a été surnommée par Riccardo Muti la soprano à la voix de miel. Ce chant à la lune de Dvorak, elle racontait que c'était grâce à cette air qu'elle avait aussi connu ses premiers succès
et que ça lui
avait, oui, absolument, et que ça lui avait aussi permis de travailler sa voix parce qu'il y a des notes particulièrement hautes et que ça lui avait permis aussi comme ça de faire tout un travail sur elle-même, sur sa respiration, et donc grand succès avec cette air. On va passer à de l'opérette.
Johann Strauss.
Thank you.
Voici René Fleming dans cette chauve-souris de Johann Strauss-Fils avec l'orchestre de chambre anglais dirigé par Jeffrey Tate. Elle a chanté environ 55 rôles, c'est ce qu'elle disait.
C'est pas étonnant, parce qu'en parcourant la discographie, c'est assez impressionnant.
Et dans tous les genres, c'est ce qu'on disait. Elle disait que finalement, pour avoir une bonne carrière, il faut être bien entouré. C'est d'ailleurs souvent ce que disent les chanteurs et les chanteuses. Et elle disait aussi, vous ne pouvez pas être chanteur à ce niveau et ne pas avoir confiance en vous. Vous devez être forte, vous avez besoin de beaucoup de force et de persévérance. J'ai l'impression d'avoir trouvé aujourd'hui un fondement personnel solide, et elle racontait que ses enfants et sa famille la soutenaient énormément. Chaque chanteur doit trouver son propre système de soutien, quel qu'il soit, et donc elle l'a trouvé aussi dans la famille.
Et c'est vrai, vous disiez tous les genres, c'est très impressionnant parce qu'en plus on sent que chez elle il n'y a aucun mépris, que ce soit pour le jazz, pour la musique populaire, pour la musique légère, même la musique contemporaine. On y viendra vendredi puisqu'elle a créé pas mal de partitions, dont certaines d'Henri Dutilleux. Et musique légère, on va rester ici avec cette veuve joyeuse de Franz Lehár. Ça va être une belle semaine.
Hein. Oh oui.
Avec René Fleming, ici, extrait de La Veuve Joyeuse de Franz Lehár, l'orchestre de chambre anglais sous la direction de Jeffrey Tate. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la liste des chefs qui a accompagné cette soprano, c'est impressionnant. Là, on avait Schönbach, Solti et Jeffrey Tate, mais on verra, il y a aussi Gergiev. Hein, tous les plus grands chefs ont accompagné René Fleming, qui va être avec nous toute cette semaine.
Et qui a beaucoup chanté à Paris, à l'Opéra de Paris. Et c'était
Je crois qu'elle aime beaucoup la France. Hein.
Oui, et c'était au moment... Elle aime beaucoup, en tout cas, déjà cette ville, notre capitale. Et puis, elle disait que c'était Hugal qui l'avait beaucoup sollicité et que pendant 10 ans, elle est venue chanter chaque année à Paris. Paris était sa deuxième maison. Et puis, quand elle est partie, elle dit, bah voilà, ça arrive après, de nouveaux directeurs viennent, les remplacent. Et puis, il y a des changements aussi de vision de l'opéra. Et donc, elle raconte qu'elle est allée chanter ailleurs, mais qu'elle revient très régulièrement donner des récitals, notamment de Lieder à Paris.
Merci à l'équipe du jour, Alex Billard, Romain Masson, Marjolaine Portier, Kaltenbach et Martine Jodot. On se retrouve demain.
À réécouter sur francemusique.fr.